Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, mesdames, messieurs, donc nous avons clôturé la semaine passée la première partie annoncée du cours, qui était plus longue que prévu. Celle-ci sera fatalement plus brève, mais je vous ai dit aussi que je me proposais, avec cette seconde partie du cours consacré aux controverses actuelles sur la composition des Gatha et de l'Avesta ancien en général, de vous préparer aux conférences du mois de mai, celle d'Albert de Jong, qui seront bientôt annoncées, et celle de Martin Schwartz, car Martin Schwartz est l'un des intervenants les plus actifs et peut-être un des plus extrémistes dans ces controverses actuelles, justement, sur la composition des Gatha. Alors, je vais y introduire. Afin que les choses soient bien claires entre nous, je vais reprendre l'historique succinctement de la conception que la science s'est faite progressivement du texte que l'on appelle les Gatha. Comme toujours, nous devons remonter à Martin Haug. C'est Martin Haug qui, le premier, a distingué que le corpus avestique n'était pas chronologiquement homogène et qu'il fallait distinguer, en tout cas, du reste de l'Avesta, un bref ensemble de textes qu'il appelle les Gatha. C'est le titre lui-même que l'Avesta récent donne à ce texte, les Gatha, ce qui signifie les chants. Haug a travaillé sur les Gatha, il a produit une édition du texte avec un commentaire et une traduction en deux volumes parus respectivement en 1859 et en 1860. Or, à l'époque où le travail de Haug est un travail encore relativement archaïque. Voyons bien les choses. La traduction moyen-perse dont nous disposons pour les Gatha n'a pas été bien utilisée par Haug, pour la bonne raison qu'en 1860, c'était trop tôt. La connaissance du moyen-perse était extrêmement limitée. C'est grâce à Haug lui-même, d'ailleurs, et aux travaux ultérieurs de Haug, c'est grâce à lui que nous connaissons beaucoup mieux le problème du moyen-perse. Donc, pour l'édition 1860, mauvaise utilisation du commentaire Pelvi. Autre chose, une des singularités les plus apparentes du corpus gathique, c'est leur régularité métrique. Or, à cette époque, à l'époque de Haug, le fait métrique, le caractère métrique des Gatha est encore largement méconnu. En réalité, les essais sur la métrique des Gatha débuteront une dizaine d'années plus tard, en 1871, avec le travail d'un certain Aurel Maya. Dès ce moment, la situation sera débloquée et nous aurons une meilleure vision de la technique poétique des Gatha. Mais je vous ferai toutefois remarquer, pour que l'introduction soit complète, que le problème de la métrique, pour un texte qui est visiblement métrique, dont on peut définir les différents mètres, car toutes les Gatha ne sont pas rédigées dans le même mètre, ben bien pour un texte de ce type, la métrique a constitué un problème extrêmement grave jusqu'à très récemment. Si Haug ne tient pas compte encore des facteurs métriques, la traduction de Bartholomé, la révision de Bartholomé de 1905, qui est une révision de Haug essentiellement, néglige aussi fortement la métrique. Pour des raisons d'idiosyncrasie, je vais dire, ce sera le cas de beaucoup de savants, mais le premier est Bartholomé. Des raisons d'idiosyncrasie, c'est que Bartholomé n'aime pas la métrique, il se méfie de la métrique. Il l'a exprimé de manière extrêmement vive à deux reprises. Une fois, il l'a dans le Grundrisse der iranischen Philologie, en présentant la grammaire avestique, il déclare en préambule « Je n'ai tenu compte nulle part de la métrique ». Et plus tard encore, après la parution du dictionnaire, il émettra la maxime suivante. La métrique n'est jamais décisive contre la phonétique. Donc il y a une négligence voulue de l'aspect métrique des textes chez Bartholomé. On pourra dire la même chose de Humbart et de l'école d'Erlangen en général, en 1959. Humbart tente d'établir avec un certain système, le maître des Gatha, mais il admet les irrégularités sans problème. Il admet les irrégularités sans problème. Il n'est pas non plus extrêmement attentif aux faits métriques. Et je vous rappellerai que si désormais nous connaissons beaucoup mieux la régularité métrique des gathas, nous le devons à des observations sur le nom d'Ahura Mazda lui-même qui ont été faites par Franz Kuiper, savant hollandais, professeur à Leiden, en 1957. C'est l'observation de l'explication par les anciennes laryngales européennes, indo-européennes, du caractère disyllabique de certaines syllabes. Mais ces observations sont très minces, c'est un bref article de quelques pages, et ce sera l'élève de Kuiper, Robert Baekes, qui en 1988 seulement produira un livre intitulé « A Grammar of Gatha Avestan », où toutes les particularités, toutes les conséquences des observations de Kuiper sont exploitées pour établir une sorte de régularité métrique. C'est la raison pour laquelle je puis vous faire remarquer que l'édition des Gatha par Pirard et moi-même est la première qui soit établie sur un texte dont on connaissait parfaitement les caractéristiques métriques. C'était la première fois. Nous avons évidemment tenu compte des observations de Baekes. Donc la métrique qui caractérise visiblement les Gatha est méconnue par Hauck. La langue, il la connaît relativement bien. C'est un védisant, il connaît le védique. Et il remarquera que la singularité des Gatha, c'est pour lui l'une de ses deux singularités. La première, c'est justement le caractère archaïque de la langue du texte. Caractère archaïque dont il épingle deux caractéristiques. La première est la relative liberté, la relative mobilité des préverbes et la complexité du système pronominal. Ce sont des observations exactes, mais qui rate la cible, nous le savons aujourd'hui, car la mobilité des préverbes est beaucoup plus grande en Avesta récent qu'on le soupçonnait alors, et le système pronominal de l'Avesta récent est lui aussi fort complexe. Donc la singularité est un peu n'est pas parfaitement définie par ces deux caractéristiques. Vous savez qu'aujourd'hui, justement, cette préservation sous forme d'hiatus des laryngales que l'observation que nous devons à Kuiper, ou bien le système verbal qui oppose systématiquement le présent à l'aoriste, ce sont là les deux véritables traits archaïques de la langue des Gatha. Donc, caractère archaïque de la langue, observation juste, mais fondée sur des critères qui ne sont pas parfaitement adaptés. Alors, la deuxième singularité, elle est de fond, hein, vous le savez, c'est que Hauck observe que la singularité des Gatha consiste à dresser un contexte historique qui est mesuré, qui est abstrait, qui est monothéiste, et ce contexte est attribué à Zarathoustra lui-même, puisque son nom est mentionné dans les Gatha. À partir de cette analyse de Hauck, nous savons que si Zarathoustra est l'auteur d'une partie de l'Avesta, il ne peut être l'auteur que des Gatha, puisque le texte le plus ancien, et de loin le plus ancien, mentionne son nom. Cette antériorité des Gatha sur le reste de l'Avesta est une question indépendante de la datation. La datation n'a rien à voir avec cela, n'est-ce pas? Car que l'on situe l'Avesta ancien dans le deuxième millénaire avant notre ère, ou qu'on le situe au VIe siècle avant notre ère, il faut malgré tout, la contrainte réelle existe, qu'il faut situer les Gatha avant l'Avesta récent, avant. Et cela en vertu d'un principe philologique très simple, que j'appellerai le principe de citation. C'est qu'un texte que cite tous les autres, et qui n'en cite lui-même aucun autre, est nécessairement le plus ancien de ces textes. Hein. Cette règle philologique ne peut être aboli dans le cas de l'Avesta que si on imagine que l'Avesta récent est la réécriture récente de textes plus anciens que les Gatha. En réalité, cette hypothèse-là ne sera pas formulée fréquemment. À ma connaissance, dans l'histoire de notre discipline, elle n'apparaît qu'aux alentours de 1930 chez le savant danois Arthur Christensen, qui défendra cette idée-là. que le fond, un certain fond textuel de l'Avesta récent serait plus ancien que les gathas. Et je vous fais remarquer, parce que nous arrivons là, ici à ce que nous préparons, c'est que dans une certaine mesure, Martin Schwartz, qui viendra vous entretenir de sa conception des gathas, pense aussi que les textes récents avaient une forme ancienne, n'est-ce pas, que les gathas ont pu exploiter. Par exemple, nous avons parlé beaucoup du Homestome, et bien Schwartz pense que deux passages gathiques sont des allusions au Homestome, ce qui est impossible dans l'état actuel du Homestome, bien sûr, mais c'est donc qu'il y aurait existé une version archaïque du Homestome. Donc l'hypothèse n'est pas enterrée, elle n'est pas entièrement à considérer comme morte, et nous verrons si Schwartz tient toujours à cette hypothèse qu'il a émise il y a quelques années. Alors, l'idée donc, que représentent les gathas comme texte dans la conception de Hauke ? Eh bien, dans la conception de Hauke, ce sont des vaticinations prophétiques. C'est-à-dire que Zarathoustra aurait eu des entretiens avec son Dieu, et il aurait reproduit devant un public la teneur de ces entretiens. C'est la conception très théologique, très archaïque aussi, que Hauke peut se faire du texte. La révision de Bartholomée en 1905, elle est essentielle. Et je tiendrai à mettre l'accent du point de vue historique sur ce qui caractérise Bartholomée. Il faut bien voir que le dictionnaire de Bartholomée, comme d'ailleurs l'édition du texte par Geltner, qui est le dictionnaire avestique de Bartholomée, vieil iranien en général, date de 1904. L'édition du texte de l'Avesta par Geltner a été clôturée 8 ans plus tôt. Ces deux ouvrages, le dictionnaire et l'édition, sont des monuments. Mais il faut bien voir qu'ils sont aussi des simplifications. On ne peut pas, dans une édition de texte ou dans un dictionnaire, il faut faire des choix. Et faire des choix, cela signifie appauvrir l'argumentation et écarter résolument un certain nombre d'hypothèses. C'est cela aussi, n'est-ce pas, ces monuments que sont l'œuvre de Geltner et de Bartholomée. En réalité, ils mettent fin à une incroyable effervescence intellectuelle de 30 ans. À partir de 1870, les articles de linguistes allemands en général, dont Geltner et Bartholomée eux-mêmes d'ailleurs, occupent à peu près toutes les revues de grammaire comparée allemande, et les discussions sont vives, extrêmement diverses. Les différents savants qui participent à ce débat changent fréquemment d'avis, et c'est la raison pour laquelle je signale aux étudiants qu'il est toujours nécessaire d'aller voir plus haut que Bartholomée et que Geltner. Il est toujours intéressant de se référer aux hypothèses que le Wörterbuch ou l'édition n'ont pas retenues. Alors, la conception que Bartholomée, lui, se fait des gathas, il a pu utiliser le commentaire Pelvi, il a une certaine idée de la métrique, c'est un grand linguiste, il connaît très bien le védique. Eh bien, Bartholomée laïcise en partie l'hypothèse de Hauke, dans ce sens qu'en sous-titre d'ailleurs de sa traduction des gathas de 1905, il parle des vers predictés. Von Zarathustra. Donc, vers prédicté, cela signifie les sermons en vers. Il considère que les gathas sont des sermons en vers. C'est peut-être une idée curieuse, mais semble-t-il, la pratique du sermon en vers a été pratiquée par les protestants luthériens, dont Bartholomée était. Donc, c'est pour lui une catégorie qui ne paraît pas étrangère et qui ne paraît pas farfelue, puisque ça a été pratiqué dans certains contextes. Les sermons en vers. Vous savez comme moi, vous savez très bien, parce que je fais souvent la mention, que la révolution copernicienne dans notre connaissance des gathas a été effectuée par Humbach dans son édition de 1959 et qui a modifié radicalement la perspective de Bartholomée, puisque lui prononce très vite le mot de leader. De leader pour définir les gathas, c'est-à-dire qu'il considère les gathas comme des hymnes analogues à ceux de Rig Veda. Qu'est-ce que cela change, sermon en vers ou hymne? C'est une question de perspective, il ne faut pas le perdre de vue, n'est-ce pas? Parce que précisément, ça veut dire que les gâtas ne sont pas des paroles, les paroles d'un homme adressées aux autres hommes. Ce n'est pas un homme qui parle à des hommes. C'est un homme qui parle au Dieu. Hein? La perspective est complètement différente. Cette perspective s'est imposée, tout le monde la retient, et en particulier les savants dont il sera question à partir de cette leçon. Certainement, tout le monde est aujourd'hui d'accord pour définir les gâtas comme des hymnes, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas derrière le mot une certaine confusion. Justement parce que je viens, justement à cause de la définition d'un hymne que je viens de vous donner. N'est-ce pas? C'est Strausberg, je crois, dans son Histoire du zoroastrisme, paru en 2002, qui fait remarquer qu'effectivement, tout le monde retient le mot d'hymne, personne ne définit plus les gâtas comme des sermons, mais tout le monde continue à les définir comme l'expression d'un enseignement. Lehre, en allemand, ou Botschaft, puisque il s'agit de l'allemand de Strausberg. Il est vrai, dès lors que l'on considère que ces hymnes contiennent une Lehre ou une Botschaft, considère-t-on encore que ces hymnes sont adressés au Dieu, que ce sont des poèmes adressés au Dieu? Je ne sais pas. Cela n'est pas toujours clair. Il y a une certaine confusion, peut-être volontaire, dans la pratique actuelle de certains spécialistes des gâtas. Alors, vous voyez que le corpus gâtique présente une singularité qu'il va falloir atténuer. Je vous rappelle, c'est pas que le corpus gâtique, c'est le chapitre 28 à 34 du Yasna, 43 à 51 et 53. Nous savons, parce que nous en avons beaucoup parlé, qu'il y a des pièces introductives dans le Yasna 27 et qu'il y a une formule conclusive dans le Yasna 54. Bien, nous savons que 51, 52, pardon, 52 est une intercalation en avestique récent. Cela, on l'a remarqué très vite, Bartholomée le savait. Par contre, il y a ici un secteur textuel qui a été fortement négligé. Ce sont les chapitres 35 à 41, car 42 peut être considéré aussi comme une intercalation en avestique récent. Or, le texte de l'Avesta récent donne un titre à ces chapitres 35 et 41. C'est le Yasna Haptankhaiti, ce qui signifie sacrifice comportant sept chapitres. Le nom du chapitre, c'est la Haiti, j'y viendrai tantôt. Or, ce texte-là n'a jamais fait l'objet d'une très grande attention. Il y a très peu de travaux lui ont été consacrés. La seule étude est très ancienne et elle est due à un helléniste allemand qui s'appelait Théodore Baunack, qui a consacré au texte du Yasna Haptankhaiti une étude exhaustive avec édition du texte et traduction en 1884. En 1884. Baunack pensait que le texte du Yasna Haptankhaiti, opinion hérétique et qui est tombée dans l'oubli très vite, ben, que le texte du Yasna Haptankhaiti était plus ancien que le texte des Gâtas. Plus ancien que le texte des Gâtas. Avec Bartholomée, l'opinion générale qui sera exprimée et que vous trouverez encore dans toute la littérature courante sur la religion mazdéenne, est qu'il s'agit d'un texte intermédiaire. Un texte intermédiaire entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent. Cette idée-là, nous allons voir comment elle s'est constituée, n'est-ce pas? Parce que, en fait, elle met en jeu, elle repose sur les quelques particularités qui distinguent le Yasna Haptankhaiti du texte des Gâtas. Or, il s'est produit en 1969, si je puis me permettre d'être un peu anecdotique, un petit fait intéressant. C'est en 1969 que l'assistante de Hoffmann, Johanna Nartén, introduit dans un article purement grammatical le génitif singulier des thèmes en nu dans l'Avesta l'appellation alt-avestiche. qu'elle substitue à gatik. Donc, il n'est plus question d'opposer, comme on l'avait fait jusqu'alors, le terme gatik au terme avestique récent, mais d'opposer vieil avestique à avestique récent. Dans l'apparence, lorsque l'on n'est pas dans le secret des dieux, si je puis dire, dans le secret des dieux d'Erlangen, il semble que cette substitution ait simplement deux buts. D'abord, elle paraît, je vais dire, d'établir une chronologie. C'est affirmer une datation, en quelque sorte. Hein. Bon, je vous ai dit qu'elle était indépendante, mais ça pourrait être cela. À l'époque, en 1969, où l'école d'Erlangen réhabilite la datation haute, les Gatha environ 1000 ans avant notre ère, eh bien, ça paraît une puissante affirmation chronologique. C'est-à-dire, voilà, la langue des Gatha est une langue très archaïque, très ancienne. Nous allons l'appeler vieille avestique. Donc, cela semble lié à une chronologie. Puis, deuxième apparence, c'est peut-être apporter remède à une certaine incohérence logique. Dans la mesure où on définit la langue du corpus récent par le fait qu'elle est récente, en l'appelant avestique récente, pourquoi ne pas contrebalancer cette appellation en appelant vieille avestique la langue de la partie ancienne du corpus? Cela permettrait de remédier à un certain déséquilibre entre les deux appellations. Mais 1969, c'est l'année où justement Johanna Narten elle-même soutient sa thèse sur le Yasna Haptankaiti, édition du texte avec traduction et commentaires exactement. Elle préparait cette thèse depuis 1964, mais elle ne la publiera qu'en 1986. On verra alors pourquoi Johanna Narten parle de vieille avestique. C'est-à-dire que les Gatha ne représentent plus à elles seules l'Avesta ancien. Le Yasna Haptankaiti fait partie de l'Avesta ancien. Il l'est, selon l'analyse de Narten, qui est imparable, mais naturellement, nous ne pouvons pas, de ce point de vue-là, y mettre des raisonnements qui portent sur des années précises. Mais l'analyse de Narten montre que la langue du Yasna Haptankaiti est très exactement la même que celle des Gatha, que c'est une langue ni plus ni moins évoluée. Ce n'est pas nécessairement, comme le disait Barnack, un texte plus ancien que les Gatha, mais ce n'est certainement pas un texte intermédiaire comme on le pensait jusqu'alors. Dès lors, il n'y a plus d'ailleurs de texte intermédiaire entre les Gatha et l'Avesta récent. Dès lors, nous devons, lorsque nous faisons une analyse du fond de l'Avesta, admettre désormais que le corpus ancien constitue cet ensemble, n'est-ce pas, et que les Gathas sont en quelque sorte disposés en écrin autour d'un texte différent d'elles-mêmes et qui est ce sacrifice en sept chapitres. Or, quelles sont les particularités qui distinguent le Yasna Haptankaiti du texte des Gathas? Tout d'abord, c'est que le texte est en prose. Le texte est manifestement en prose. Il y avait eu quelques tentatives de rétablir une certaine versification. Barnack s'y était essayé. Narten, qui idiosyncrasiquement aussi se méfie de la métrique, ne retient pas les arguments de Barnack, mais ici, c'est avec elle, a parfaitement raison. C'est un texte en prose. Quoique, ici encore, les choses depuis 1986 ont quelque peu évolué, comme vous le savez. Certains se souviendront peut-être du petit colloque que j'ai organisé ici il y a quelques années et où une petite discussion s'est établie entre Cherveux et Hinze d'une part, moi-même d'autre part, pour définir la forme rhétorique du Yasna Haptankaiti, où il y a une discussion, je vous avoue, qui me paraît très byzantine, mais semble-t-il, on m'a reproché de ne pas faire la différence, alors je vous la confie, vous le verrez peut-être mieux la différence que moi. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que je définissais la rhétorique du Yasna Haptankaiti comme Kunstprosa, pour le traduire en français, la prose d'art. Si, je ne sais pas si l'expression est moins courante en français, alors il court au terme allemand, la prose artistique. Et d'autre part, Cherveux et Hinze parlaient plutôt d'une prose rythmée. Mais comment définir le rythme s'il n'y a pas de métrique? Je ne sais pas. principe. Nous avons eu cette petite discussion qui me paraît peut-être d'un pointillisme extrême. Je vous livre cette petite controverse qui a eu lieu il y a quelques années. Un autre trait distinctif du yasna Abtankhaiti, c'est qu'à côté des gathas abstraites, comme l'a montré Haug, qui font intervenir dans leur univers poétique presque essentiellement des allégories abstraites, il y a dans le yasna Abtankhaiti, et même de manière prononcée, un certain naturalisme. Puisque le chapitre central du yasna Abtankhaiti, le yasna 38, est un texte consacré au culte, au sacrifice rendu aux Gunas, c'est-à-dire aux déesses, aux femmes divines. Et ces Gunas sont essentiellement la terre et les différentes sortes d'eau. Un culte des eaux, ce que les Gathas ne montrent nulle part. Enfin, troisième trait, il y en a quatre, cinq d'une certaine façon. Le yasna Abtankhaiti, contrairement au gatha, n'est pas un texte, disons, dualiste. Il ne met pas en opposition le bien et le mal. Ou il le fait seulement en creux, puisqu'il le proclame lui-même d'entrée de jeu dans la première strophe, sa volonté de ne dire que ce qui est bon. Enfin, je m'exprimerai, dit-il l'auteur, en quelque sorte, comme je ferai l'éloge de ce qui est bon. Je ne dénigrerai rien. Je ferai l'éloge de ce qui est bon. C'est une idée qu'on retrouve dans les hymnes védiques, d'ailleurs, où l'auteur d'un hymne védique déclare, lui aussi, « Je ne m'exprimerai qu'au moyen de sumna », c'est-à-dire de pensée positive. Or, j'ai dit dualisme parce qu'on prononce souvent le mot pour le zoroastrisme, mais cela signifie qu'ici aussi nous nous trouvons devant un trait rhétorique. Et dans les dernières conceptions de ce type de rhétorique chez Cherveux, je vous le rappelle, cela signifie que le yasna Abtankhaiti est rhétoriquement un texte uniformément praise, c'est-à-dire, selon les catégories des rhétoriciens anglo-saxons, un texte qui est essentiellement consacré aux éloges, et il n'est pas, comme le yasna, comme le gatha, pardon, un texte praise and blame, c'est-à-dire où l'éloge va toujours de pair avec le blâme, hein, le blâme adressé à quelqu'un. Ce que l'on appelle plutôt dans rhétorique, les indianistes français, Louis Renou par exemple, appellent ça la rhétorique de la contrepartie. Les gathas pratiquent la rhétorique de la contrepartie. La rhétorique du yasna Abtankhaiti est uniforme. Différence rhétorique aussi qui paraît légère, n'est-ce pas, mais auquel, justement, ces dernières années, dans les controverses actuelles dont nous allons parler, ça paraît léger, mais ça devient important. C'est-à-dire que, alors que les gathas sont rédigés à la première du singulier, « je », dit le poète ou le récitant des gathas, le yasna Abtankhaiti est uniformément rédigé à la première du pluriel. Il y a une multiplicité de récitants. Les récitants disent « nous », « nous ». C'est un trait qui n'a pas beaucoup retenu l'attention parce qu'il paraît banal, il paraît sans grande importance, hein, ça paraît une subtilité, mais on y a depuis quelques années accordé un peu plus d'attention, et nous y viendrons d'ailleurs. Je m'empresse tout de suite de rétablir une certaine, un peu la réalité des faits en vous disant que s'il est vrai que l'yasna Abtankhaiti est presque uniformément rédigé à la première du pluriel, il y a une seule exception dont on ne voit pas la raison, le motif. Les gathas, elles, sont loin d'être rédigées majoritairement à la première du singulier. Au contraire, les gathas sont extrêmement souples quant à leur système pronominal. Et elles passent très facilement, non seulement de la première du singulier à la première du pluriel, mais aussi à la troisième du singulier quand il le faut. C'est donc un texte extrêmement variable. Le yasna Abtankhaiti, non, il est vrai. Alors, l'autre... La dernière particularité, la cinquième, c'est l'absence du nom de Zarathoustra. Ça, c'est certainement la particularité qui avait convaincu Baounak, pas que le texte était antérieur au gatha, que c'était en quelque sorte un texte pré-zoroastrien. L'absence du nom de Zarathoustra, ça, je ne sais pas comment il faut en juger, mais vous connaissez certainement l'hypothèse de Nartène qui va nous introduire tout de suite aux controverses. Nartène s'est posé la question de cette absence, comme certains l'avaient fait avant elle, et elle en a conclu que Zarathoustra était absent. Le nom de Zarathoustra était absent du Yasna Haptankaiti parce qu'il était l'auteur. Disons, il n'y a pas de raison que le nom de l'auteur d'un texte figure dans ce texte. S'il est l'auteur du texte, l'absence de son nom peut paraître naturelle. J'ai fait remarquer à Nartène, vous le savez, que c'est quand même très curieux, parce que, puisqu'on attribue les gâtas à Zarathoustra, parce que son nom figure partout. Ben, donc cet argument peut être retourné de manière, je pense, je vais dire décisive. En fait, nous n'en savons rien, bien sûr, n'est-ce pas, l'absence du nom de Zarathoustra. Je la lirai personnellement, moi-même personnellement, je la lirai plutôt à la première du pluriel. Lorsque les récitants se présentent comme un collectif, comme un collège, il n'y a pas d'individualité. On ne cite pas de nom propre, n'est-ce pas ? Les noms propres n'apparaissent qu'avec la première du singulier. Et là, une sorte d'incompatibilité rhétorique, hein, entre la mention des noms des hommes, des sacrifiants, des récitants, des poètes, si vous voulez, n'est-ce pas ? Et l'emploi du pluriel dans l'adresse aux dieux. Alors, voilà où nous en sommes. Vous voyez que nous sommes tout de même, nous ne sommes pas très loin, puisque nous n'avons une vision de l'Avesta ancien par complète, n'est-ce pas, avec toutes les difficultés qui continuent à se poser, hein, que depuis 1986, et le livre de Nartène. C'est depuis lors que nous travaillons sur des bases beaucoup plus précises, que l'avait fait bien sûr Hauck, mais aussi Bartholomée et Humbart. Alors, je vais en venir, si vous voulez, après cette introduction historiographique, j'en viens aux controverses actuelles sur la composition des gâtas, car cela ne concerne guère le Yasna Haptankaiti. Certains d'entre vous, je vais m'attarder plus particulièrement à deux controverses qui ont pris la forme de critiques qui nous était adressé, à Pirard et à moi. J'y ai déjà fait allusion à chaud l'an dernier, mais je voudrais reprendre les choses de façon moins réactive, puisque les textes commencent à mûrir. Ben, la première réaction est celle d'Almuth Hinze, qui était présente au petit colloque il y a, et qui avait analysé la structure du Yasna Haptankaiti. Hinze a publié dans le bulletin « The School of Oriental and African Studies » de l'Université de Londres en 2002, un article intitulé « On the literary structure of the older Avesta », donc sur la structure littéraire de l'Avesta, de l'Avesta ancien, 2002. L'autre intervenante dans cette controverse est Stephanie Jamison, l'indianiste américaine Stephanie Jamison, qui l'a exposée ici même, où nous l'avions invitée, Gérard Foussman et moi, à venir faire quatre conférences, qui sont parues en 2007 dans les publications de l'Institut de civilisation indienne, intitulées « The Rig Veda Between Two Worlds », le Rig Veda entre deux mondes. Bien, la controverse est tout d'abord une controverse qui porte sur l'unité textuelle des gâtas. Il faut bien voir, je l'ai déjà bien sûr évoqué cette réalité, c'est que l'Avesta présente le corpus métrique dont nous parlons, de l'Avesta ancien, comme un ensemble de cinq gâtas, 28 à 34, c'est l'Arunavaiti Gata, du premier mot, mais le premier mot est repris à l'Arunavairia, donc c'est la Gata qui commence par le mot Aru. 43 à 46, et l'Ushtavaiti Gata est un autre maître, et la Gata est plus courte, car curieusement, l'ordre des Gata, c'est la longueur décroissante. Ici, vous voyez, il y a huit chapitres, ici il y en a quatre, 43 à 46, 47 à 51, C'est aussi une, c'est la Spanta Mainyu Gata, car le premier mot c'est Spanta Mainyu Gata, quatre chapitres aussi, mais le nombre de strophes est moins important donc, que dans la précédente ensemble. Enfin, excusez-moi, c'est 47 à 50, hein, 47 à 50. 51, une seule haïti, un seul chapitre, c'est la Vohukshatra, ce sont les premiers mots. Vohukshatra Gata. Enfin, la dernière, 53, Vahishto Yishti Gata, la Gata qui commence par Vahishta Ishtish. Ishto Yishti Gata. Un seul chapitre également. Donc, cinq gathas, cinq chants dans la terminologie de l'Avesta lui-même, hein, je vous le rappelle. Et ces chants sont groupés donc en chapitres. Il y a, vous faites le compte, 17 chapitres, ce que l'Avesta appelle Haïti, section. Haïti, section. Alors, le mot Haïti n'est jamais appliqué au gatha par l'Avesta lui-même. Mais cela ne veut pas dire que l'Avesta ignore le mot, hein, puisque la Yasna Haptankhaiti lui contient le mot. Haptankhaiti, ce qui veut dire un sacrifice en sept chapitres. Donc, on peut donc, pendant longtemps, n'est-ce pas, on a considéré de manière pratiquement unanime que la Haïti était l'unité textuelle du corpus gathique. 17 textes indépendants auraient été distribués en cinq ensembles, d'après le critère de la similitude métrique. Il y a, il y a cinq maîtres gathiques comme il y a cinq gathas. Et c'est une hypothèse en cru, essentiellement, hein, parce qu'elle est établie sur un élément, sur un argument qui est essentiellement négatif, à savoir que nous ne parvenons à distinguer aucune continuité conceptuelle d'une haïti à l'autre dans le corpus gathique. On ne voit pas en quoi une haïti prolonge la précédente. C'est donc une sorte de... C'est notre impuissance à discerner cette continuité conceptuelle qui est en jeu. Alors, je vais vous lire ce qu'en disait Darmstetter en 1892 dans sa traduction des gathas de son grande traduction de l'Avesta, car les termes de Darmstetter sont extrêmement clairs. Ils font la théorie de cette conception des choses. « Il n'y a point d'indice, dit Darmstetter, que les trois premières gathas, les seules qui contiennent plusieurs haïti, aient formé des groupes indépendants dès l'origine et étaient composés d'ensemble. Il est probable que l'unité réelle des gathas est la haïti. On ne voit pas, en effet, un plan suivi et différent se développant le long de chacune de ces gathas, et le fond des idées est le même dans toutes les gathas et toutes les haïti. Donc, il est permis de supposer que le groupement présent répond au rapport des rythmes. On a réuni en un groupe toutes les haïtis composées sur le même maître. » Voilà qui est très clair, hein, voilà la conception. On ne peut pas s'exprimer plus clairement. Seulement, très vite, l'hypothèse haïtique est devenue une certitude. Hein. Vous avez senti que Darmstetter s'exprimait tout de même avec certaines réserves. Très vite, c'est devenu une certitude. Et cette certitude-là a justifié certaines outrances. La première outrance, c'est l'utilisation impropre et généralisée de gatha pour désigner la haïti, car vous trouverez très souvent l'expression « les 17 gathas ». Non, il y a 17 haïti et 5 gathas, n'est-ce pas ? Donc, gatha a envahi le champ de définition des textes et a été utilisé, été substitué à haïti pour... désigner chaque chapitre. La deuxième outrance a été de bouleverser l'ordre des haïti afin de restituer une biographie présumée de Zarathoustra. Il y a les deux exemples les plus clairs de cette démarche, c'est la traduction des gathas par Duchesne d'Yvelines en 1948, qui modifie complètement l'ordre, ce qui est d'ailleurs très agaçant quand on veut les consulter pour voir de quelle manière il traduit, n'est-ce pas ? Il bouleverse l'ordre, et de même, on trouvera, je vous ai parlé, je crois, c'était au séminaire, dans la traduction finale de Lommel, qui paraît à Bâle en 1970, un collègue de Lommel, Erwin Wolff fait un raisonnement. Lommel n'a pas bouleversé l'ordre, mais Wolff essaye d'établir l'ordre de succession biographique des Gata. Donc deux essais en ce sens. Hein. Et je ferai remarquer d'ailleurs que cette démarche-là, elle est en porte-à-faux avec l'argument de base, puisque il n'y aurait pas de rapport conceptuel entre les chapitres d'une même Gata, mais on prétend en découvrir des rapports conceptuels entre des Haïti et Parse dans le corpus. C'est quand même assez paradoxal. Alors, j'en viens à Humbart. En dépit de la manière dont il a bouleversé le champ des études gathiques, Humbart a entériné l'hypothèse de l'unité hattique, de l'unité des Haïti. Mais il a retrouvé des accents plus prudents. La manière dont Humbart s'exprime est assez proche de celle de Darmstetter. Il fait tout de même la part de l'incertitude. Il exclut aussi résolument tout raisonnement biographique. Je ne pense pas, Humbart ne pense pas que l'on puisse tirer des Gata une biographie de Zarathoustra. Et il se refuse donc le recours au raisonnement biographique. Et il conclut naturellement sur une note nouvelle, n'est-ce pas, sur une note nouvelle, puisqu'il considère les Gata comme des hymnes et non comme des sermons. D'une certaine manière, ce fait-là renforce, n'est-ce pas, l'hypothèse de l'indépendance conceptuelle des Haïti, puisque cette indépendance serait, après tout, analogue à l'indépendance des hymnes du Rig Veda. Les hymnes du Rig Veda, non plus, ne se succèdent pas selon une logique conceptuelle. Pourquoi en irait-il autrement des Gata? Telle est donc la position qui a été défendue par Humbart. En réalité, le seul partisan historiquement de l'hypothèse de l'unité organique des Gata est l'iraniste français Marie-Jeanne Mollet. Mollet qui l'a, dans son livre de 1963, solidement étayé. Or, je vous rappelle que les arguments de Mollet sont très forts, parce qu'ils se ramènent en dernière analyse à deux remarques qui sont imparables. C'est-à-dire, la première, c'est que chaque Gata, tout en poursuivant un développement propre, bon, c'est évident que la Hunavaiti Gata, qui comporte 8 chapitres, et la dernière, la 53, qui ne comporte qu'un chapitre, ne peuvent pas exactement organiser leur développement de la même manière. C'est une question de longueur de texte, là va de soi. Il y a donc un développement propre qui est lié d'une certaine manière à l'ampleur du texte. Hein, et bien, malgré tout, chaque gata passe nécessairement, invariablement, par des motifs obligés. S'il y a bien dans les gata une règle de déroulement, si une gata observe une règle de déroulement, eh bien, c'est dans l'unité gatique qu'elle s'observe. Je vais prendre un exemple, c'est que chaque gata, je ne dis pas Haïti, un gata, chaque gata dresse nécessairement, mais une seule fois aussi, le catalogue des noms propres. Donc, dans chaque gata, une fois, on énumérera une série de noms propres. Je ne m'avance pas sur la personnalité des gens que ces noms désignent, n'est-ce pas ? Ce n'est pas notre but ici. Ce catalogue des noms propres est variable aussi, n'est-ce pas ? Il est parfois plus étendu, parfois moins. Mais en tout cas, chaque gata le fait une fois. La seconde observation, c'est qu'il y a entre les Haïti d'une même gata des éléments de connexion. Et des éléments de connexion qui reposent sur la répétition des mots. Par exemple, il y a un développement dans la première gata, la Hunavaiti, un développement consacré à la notion de Uruata. Uruata, c'est un indien vrata. C'est un terme dont nous ne connaissons pas bien toutes les nuances, mais pour situer le mot, le sens du mot, je dirais, c'est une sorte d'alliance que le poète sacrifiant conclut avec la divinité. On traduit généralement en français par vœu, parce qu'on pense à ce qu'est un vœu du point de vue religieux. Donc c'est une manifestation d'alliance entre le sacrifiant et la divinité qui reçoit le sacrifice. Eh bien, le développement sur cette notion commence dans la dernière strophe de la troisième Haïti de la première Gata, Yasna 30-11. Et le mot réapparaît dans le Yasna 31-1. Donc il y a un enjambement autour de la même notion. Et le développement sur le Vratin s'achèvera d'ailleurs que bien plus loin. C'est un ensemble thématiquement marqué, très long, puisqu'il ne s'achèvera qu'avec la strophe 31.6. On trouve une demande d'aide exprimée sous forme de question, les deux fois, dans la dernière strophe de 49 et dans la première de 50. Comprenez qu'on n'a pas tendu Mollet, ni moi-même, pour remarquer ces détails. Umbar l'avait remarqué, mais il avait curieusement, nouveau, lui aussi, retourné l'argument, disant, c'est justement peut-être parce que la première strophe du Yasna 31 contient le même mot que la dernière strophe du Yasna 30, que l'on a assemblé les textes de cette manière-là. Vous voyez, le retournement de l'argument, n'est-ce pas, à ce moment, on peut naturellement toujours justifier ce genre de choses. Hein. Alors voilà, la controverse s'est installée avec Hinze et Jamieson à partir de là, puisque plus tard, dans la traduction que j'ai faite avec Pirard, j'ai approuvé l'analyse de Mollet et j'ai soutenu, là je vais vous expliquer que j'avais tort, que le découpage en Haïti correspondait à une mise en chapitre tardive et artificielle, dominée par le souci de délimiter, autant que faire se pouvait, des ensembles de 11 strophes. Ce que j'ai appelé l'endécatropisme des Gata. Effectivement, beaucoup de chapitres, beaucoup de Haïti, déjà on peut compter la première, n'est-ce pas, Yasna 28, Yasna 29, Yasna 30 comportent pareillement 30 strophes, et l'Yasna 31 comporte 22, ce qui est un multiple de 11. Bien, alors, quelles ont été les réactions de Hinze d'une part et de Jamieson à la prise de position donc, que j'avais posée dans le premier volume, c'était en 1988, eh bien, dans son article de 2002, Hinze a dessiné, elle, une nouvelle version de l'hypothèse hattique, en faisant de Zarathoustra à la fois l'auteur et l'éditeur du texte. Et d'ailleurs, en réalité, du corpus vieillavestique tout entier, car Hinze admet l'hypothèse de Nartin, que Zarathoustra est l'auteur du Yasna Haptenkaiti, et alors en tant qu'éditeur, il aurait aussi décidé de faire figurer le Yasna Haptenkaiti à la place qu'il occupe dans le corpus d'aujourd'hui. Voyez qu'en fait, nous avons beaucoup parlé dans les leçons précédentes de l'édition, à un moment donné, de l'époque avestique récente de l'Avesta ancien, mais que Narten fait remonter cette édition aux origines et à l'auteur lui-même. Ce n'est pas l'ordre, c'est pas l'ordre de composition dans l'esprit de Hinze. Faites attention à cela, c'est une édition, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que Zarathoustra, à la fin de sa carrière, aurait donné cette organisation, en quelque sorte, à l'ensemble de ses œuvres. Bon. Jamieson, elle, donne aussi sa préférence à l'unité hattique, mais elle l'admet, quoiqu'elle ne s'attarde pas beaucoup sur la possibilité que la Haïti pourrait n'être qu'une sous-unité de l'unité gathique. En quelque sorte, elle admet la possibilité que les gathas constituent un ensemble homogène, mais que chaque Haïti correspondrait à une division du texte. En quelque sorte, si je devais exprimer les choses de la manière la plus claire possible, je dirais que, effectivement, la Haïti est unitaire, mais elle n'est pas autonome. Elle n'est pas autonome. Elle est unitaire, compose une unité, un ensemble homogène, mais cet ensemble homogène est inséré dans une unité plus vaste. C'est une possibilité que Jamieson laisse ouverte. Eh bien, le changement de perspective avec Hinze et Jamieson est en fait, ce n'est pas une réaction, c'est un changement de perspective. On n'en revient pas à l'ancienne conception des Gata. Les Haïti sont certes réhabilités comme les véritables unités textuelles des Gata, mais leur ordre de succession n'est plus conçu comme arbitraire. On le concevait avant comme arbitraire, n'est-ce pas ? Puisqu'il serait original, c'est le cas c'est dans la conception de Jamieson, hein, comme sous-unité d'un ensemble plus vaste, soit leur ordre de succession aurait été voulu par l'auteur lui-même. Bien, alors ici je vais vous, peut-être c'est ici que je ferai mon autocritique, il me semble que la représentation que Jamieson peut se faire des choses que Jamieson se fait des choses peut-être acceptables. Je ne puis naturellement pas souscrire au biographisme de Hinze, mais il me semble que Je pense aujourd'hui que les Haïti sont unitaires, effectivement. Ils ne sont pas autonomes. Je le fais pour deux raisons, et peut-être une troisième. C'est que d'une part, les arguments de Molé en faveur de l'unité organique des Gata n'ont jamais été réfutés. Ils n'ont même pas été discutés. C'est pour ça que l'unité gathique, c'est une affirmation pure et simple, y compris chez Hinz ou Jamison lorsque cette unité occupe le devant de la scène. Donc, les arguments de Molé sont très forts, me semble-t-il. D'autre part, les analyses structurelles, car il n'y a pas que l'affirmation dans ces articles-ci, de Hinz, de Jamison, de Schwartz, qui sont plus sophistiqués, bien sûr, mais, et ceux qui ont précédé dans la ligne scientifique de l'analyse structurelle du texte, eh bien, ils montrent, il faut bien le reconnaître, ces analyses structurelles montrent que la division en Haïti est inhérente à la composition du texte. On voit que le texte a été composé de cette manière-là. Alors voilà comment je définirais mon erreur personnelle. C'est que j'ai considéré que les Haïti étaient arbitraires, oui, mais non par leur ordre de succession, comme le faisaient les autres, mais par leur délimitation. Donc, je crois effectivement que ce n'est pas la délimitation en Haïti n'est pas une intervention tardive et artificielle d'un dit assez vaste moderne. C'est une conviction que je puis avoir, mais je viens à l'autre raison que j'ai d'adhérer à l'analyse de Jamison sous certains aspects. C'est parce que je me suis rendu compte, en regardant les textes, parfois les choses ne sautent pas aux yeux, parfois elles le font, c'est que ce que j'ai appelé le rythme endécatropique des strophes des Gata était inhérent à la composition. Pourquoi ? Parce que, à une exception près, c'est la Spenta Mainyu, la troisième Gata, le nombre de strophes de chaque Gata peut être amené à un multiple de 11. C'est l'évidence pour l'Ushtavaiti, la deuxième, 66 strophes. C'est l'évidence pour l'avant-dernière, la Vuhukshatra, 22 strophes. C'est aussi l'évidence pour la dernière, la Vahishto Yishti, un acte 9 strophes, me direz-vous. Oui, mais il faut comptabiliser la formule conclusive de Yasna 54, qui n'est que la dernière strophe du Yasna 53. Et il faut aussi renoter, ce qui est une bonne vraisemblance philologique, c'est que la sixième strophe est en réalité le collage de deux strophes mutilées. Il y a là-bas deux strophes que l'on a, en quelque sorte, raccommodées. Donc cela ferait un ensemble de 11 strophes. Le cas de l'Ahunavaiti est un peu plus complexe, mais il ne compromet pas l'observation endécatropique. En réalité, l'Ahunavaiti, qui est la gata la plus longue, elle comporte 100 strophes. 100 strophes. Et 101, si on intègre l'Ahunavairia, qui est la première strophe dans ma conception de l'Ahunavaiti gata. Alors, bon, je proposerai d'admettre à titre d'hypothèse de travail, rien d'autre, une hypothèse de travail, c'est qu'on peut considérer qu'il y a une strophe introductive et une strophe conclusive, ce qui nous amène à un total de 99 strophes pour le corps de la gata. La strophe conclusive, pourquoi est-ce que je me permets cela ? Eh bien, simplement parce que la strophe conclusive est effectivement étrange dans la Ahunavaiti gata, ce qui a d'ailleurs incité Schwartz à faire l'hypothèse d'une composition tardive, c'est qu'elle est étrangement parallèle aux strophes conclusives des deux gata qui suivent. Elle dit pratiquement la même chose dans les mêmes mots. Comme si c'est aussi un argument d'unité organique d'une certaine façon, n'est-ce pas, se dire que chaque gata comportant plusieurs haïti se termine par une strophe pratiquement identique. Modifiée, bien sûr, parce que le maître n'est pas le même, on ne peut donc pas disposer les mots de la même manière. Mais ces trois strophes finales composent le tissu d'un passage parallèle. Alors, on voit bien que le rythme des 11 strophes, comme structure sous-unitaire, est supprimé lorsque il y a ce que Jamison appelle des marqueurs formels ou thématiques d'unité. Un marqueur formel, c'est par exemple l'utilisation d'un refrain. La Haïti 44, dans la deuxième gatha, la 43 aussi, n'est-ce pas, la troisième gatha fonctionne fortement comme cela. Pratique le refrain. Donc là, il y a un marqueur formel très fort d'unité. Il y a le marqueur thématique, c'est bien sûr lorsque un concept est en jeu. Ben, je viens de prendre l'exemple du vrata à la jointure du yasna 30 et du yasna 31, c'est le cas. C'est pas... Mais enfin voilà, il semble donc qu'il y a nécessairement un rythme de 11 strophes, pas que les gathas progressent de 11 en 11 strophes. C'est c'est l'impression, de toute façon, c'est l'impression qu'elle nous donne. Alors, je voudrais établir tout de même les arguments, les travaux de Hinz et de Jamieson, tout au moins les arguments qu'elles opposent à l'hypothèse de l'unité gathique, sont fondés sur l'étude de la répétition des mots. L'étude de la répétition des mots. C'est une technique d'analyse compositionnelle qui a été inaugurée en 1953 par un professeur de l'université de Hambourg, dont je vous ai rarement, dans mes développements historiographiques, parlé, Wolfgang Lenz. Lenz a étudié, a consacré trois articles, trois années consécutives, à l'étude des répétitions de mots dans les gathas et l'idée de leur structure formelle. En 53, il s'attache au Yasna 47. En 54, il publie non pas un article, mais véritablement un petit livre sur le Yasna 28. Et l'année suivante, 55, il reviendra une fois de plus au Yasna 47. Bon. Alors, j'en ai pas souvent parlé de Lenz. Vous voyez où il se situe, entre 53 et 55. Parce que son hypothèse, en soi, les travaux qu'il a faits ont été fort mal reçus. Il ne me semblait pas, je me suis peut-être trompé, que les analyses de Lenz aient eu une postérité très importante. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. Ils ont été très mal reçus pour deux raisons. La première, c'est qu'il aboutit à une conclusion qui est un aveu d'impuissance et une conclusion sur laquelle on ne peut rien bâtir, sinon l'idée que nous sommes impuissants à éclairer le texte des gathas, c'est que les gathas sont incohérentes, elles sont volontairement incohérentes. Il n'y a aucun fil conducteur dans la pensée des gathas. Ce sont des textes émotifs. Et ceux d'entre vous qui sont originaires de l'Iran, je ne sais ce qu'ils en pensent, et Lenz, n'est-ce pas, voyait une constante de la littérature iranienne dans cette incohérence et cette émotion, en disant, on retrouve la même chose chez le poète classique Hafez, n'est-ce pas, mais on retrouve aussi cela de nos jours dans les discours de celui qui était alors le premier ministre de l'Iran, le docteur Mossadegh. N'est-ce pas, bon, il voyait une constante de Zarathoustra à Mossadegh, n'est-ce pas, dans l'émotion incohérente qui s'exprime dans les textes littéraires. Mais, bon, alors, Wolfgang Lenz, c'est aussi ce qui m'a frappé c'est un élève d'Andreas. Il est élève d'Andreas. Il commence une carrière très jeune en éditant des textes manichéens, dont le plus connu vers 1920, des Die Stellung Jesu, la place de Jésus dans le système manichéen. Puis il a eu une carrière universitaire difficile, apparemment. Je l'ai rencontré une fois, alors qu'il était déjà âgé, avant de devenir, après la guerre, professeur à l'université de Hambourg, où il a eu pour élève Hans-Peter Schmidt, dont nous avons parlé, à propos des exégèses de textes avestiques. Donc voilà à nouveau un spécialiste qui, dans sa pratique, se rattache à l'école d'Andreas. C'est une chose qui m'avait frappé qu'en dehors de l'école française, d'Armestetter, de la lignée d'Armestetter-Meyer, dont Duchesne d'Himin, mon maître, est le représentant actuel, et de l'école d'Erlangen, qui était l'autodidacte, car Hoffmann a appris l'avestique sans maître. Ça avait 10 ans, bien sûr, c'est un indianiste, mais il n'a jamais suivi de cours d'avestique, il l'a fait lui-même. Donc lui, ce double courant, tous les autres spécialistes actuels de l'Avesta ou de la religion mazdéenne se rattachent en dernière analyse à Andreas, ce que j'ai appelé la postérité d'Andreas. Lenz aussi. Lenz est un élève d'Andreas. Schmidt, Hans-Peter Schmidt, qui est l'élève de Lenz, mais qui est aussi par ailleurs un indianiste, a repris la méthode de Lenz dans trois articles publiés respectivement en 1968, à l'époque où il était professeur à Hambourg, puis en 1974, l'article de 68 est en allemand, celui de 74 est le premier en anglais, hein, il est à ce moment-là professeur à Leiden, et 1985, alors qu'il est professeur à Los Angeles, il a consacré ses articles respectivement au Jasna 49. Il a repris le Jasna 47, qui avait déjà deux fois analysé Lenz, et en 1985, un ouvrage, un opuscule beaucoup plus étoffé au sujet du Jasna 33. Je m'excuse, je m'arrête un peu, je dois m'arrêter. Nous sommes un peu au milieu de l'exposé. Nous le reprendrons à cet endroit-ci. J'essaierai de montrer les modifications extrêmement intéressantes que Schmidt a fait subir aux techniques compositionnelles de Lenz. Et nous introduirons ainsi les conceptions de Stephanie Jamison et de Albert Hintze. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.